Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Des câbles sous-marins stratégiques endommagés, c'est la nouvelle guerre hybride en mer Baltique. Le portrait de la chef du parti d'extrême droite allemand Alice Weidel et puis la nouvelle communauté des latino-américains à Madrid. Voilà l'essentiel du programme d'Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour à tous. Les sabotages en mer Baltique se succèdent et se ressemblent. Des câbles sous-marins de télécommunications sont sectionnés ou endommagés. C'est ce qu'on appelle une guerre hybride et les premiers suspects sont bien sûr les navires russes qui sillonnent la zone. Depuis que la Suède et la Finlande ont adhéré à l'OTAN, ces attaques se multiplient. L'Alliance Atlantique a donc réagi en déployant avions, bateaux et drones pour surveiller cette mer stratégique. C'est ce qu'on appelle l'opération Sentinelle de la Baltique. Notre correspondante Marielle Vituro a pu embarquer à bord d'un de ces navires.
Le yacht Vingis est à quai dans le port de Klaipėda, ville portuaire de Lituanie. Son équipage de 50 marins s'apprête à partir plusieurs jours en mer pour la mission Sentinelle Baltique, la mission de surveillance de l'OTAN. Il naviguera dans la zone exclusive économique, une zone ouverte au trafic international. L'amiral Giedrius Priminetskas est à la tête de la marine lituanienne.
Le rôle premier de ce navire, quand il est en mer, c'est de collecter des informations sur ce qui se passe, d'avoir une image complète de la mer Baltique, d'échanger des informations avec les pays de l'OTAN voisins, de savoir quels sont les navires en transit en mer Baltique.
Les fonds sous-marins de la Baltique abritent différents câbles électriques et de communication. Ce sont des infrastructures d'une importance vitale pour l'économie mondiale et les communications Internet. C'est ce que rappelait Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, à l'occasion d'une conférence de presse à Helsinki le 14 janvier.
Ces installations sont cruciales pour le transport de l'électricité ou du gaz. 95% du trafic Internet est assuré par des câbles sous-marins. Plus d'un million de kilomètres de câbles assurent chaque jour 10 000 milliards de dollars de transactions commerciales.
Les incidents se multiplient. Il y a une semaine, un câble laiton a été endommagé. Le 25 décembre dernier, c'est un câble électrique entre la Finlande et l'Estonie. Récemment, la Suède a révélé que lorsqu'un câble de télécommunication avait été sectionné en novembre, Nordbalt, le câble électrique qui relie la Suède à la Lituanie, avait été aussi endommagé. Comment procéder alors pour détecter un potentiel malfaiteur? L'amiral Giedrius Priminetskas explique comment les marins peuvent repérer un navire suspect.
Route de navigation inhabituelle, réduction de la vitesse et plein d'autres facteurs dont le comportement à proximité d'infrastructures critiques.
Le yacht Vingis est en repérage en pleine mer. Un marin observe l'horizon à la jumelle. Sur le pont, le capitaine Arunas scrute les écrans. Ce sont surtout les navires russes qui posent problème en mer Baltique. Mais il n'est pas évident de les repérer.
Non, ils n'utilisent pas le système d'identification automatique. Donc nous devons les identifier visuellement.
L'autre problème vient de la flotte fantôme. Le député lituanien Laurinas Kasčiūnas, membre de la commission de la sécurité nationale au Parlement, explique de quoi il s'agit.
Le plus grand problème, c'est la flotte fantôme. Ces navires qui transportent des hydrocarbures russes vers des pays non européens. Ils sont une source de revenus pour la Russie et ils lui permettent d'alimenter sa machine de guerre. Le nombre de navires en mauvais état a augmenté en mer Baltique. C'est un risque accru d'incident.
Ces navires battant pavillon étranger sont à la fois un danger pour l'environnement, une marée noire abîmerait l'écosystème fragile de la mer Baltique, mais il semble surtout qu'ils sont impliqués dans les précédents incidents car ils se sont trouvés à proximité des infrastructures endommagées. Les câbles ont été sectionnés par des navires ayant laissé traîner leur ancre en mer. Que faire donc si un navire s'approche trop près de ces infrastructures? L'amiral Giedrius Priminetskas détaille la procédure.
Nous dressons un tableau de la situation. Nous suivons le navire avec des moyens techniques, radars depuis la côte. Nous posons des questions si nécessaire et nous transmettons toutes ces informations aux autorités. Nous sommes en temps de paix. Le service de protection des frontières est en charge des suspects.
Comme le rappelle le Premier ministre estonien, Kristen Michal, son pays a déjà mené plusieurs opérations pour tenter d'arrêter ces tankers, souvent soupçonnés d'être à l'origine des dégâts.
Depuis juin, nous avons déjà contrôlé plus de 300 tankers. 206 ont présenté leurs papiers d'assurance, 62 non. Et nous avons arraisonné 7 tankers. Et nous n'allons pas nous arrêter.
Sur le yacht Vingis, l'atmosphère est calme. Être présent est un élément fort de dissuasion. Les marins en sont convaincus.
À 3 semaines des élections en Allemagne, le parti d'extrême droite AfD n'a jamais été aussi incontournable. Deuxième dans les sondages, on assiste à la fin d'un tabou avec ses votes au Parlement aux côtés des chrétiens démocrates. Bonjour Romain Lemarasquier.
Bonjour.
Vous nous faites le portrait d'Alice Weidel, candidate de l'AfD au poste de chancelière, celle qu'on surnomme la Dame de Fer ou la Princesse de Glace, incarne une extrême droite décomplexée avec un programme radicalement anti-migrant.
Oui, à 45 ans, Alice Weidel, petite fille de juge nazi, homosexuelle assumée, qui vit en couple avec une Suissesse d'origine sri-lankaise avec qui elle élève 2 enfants, est en passe de provoquer un séisme sur la scène politique allemande. Présidente de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD depuis plus de 2 ans, cette économiste de formation a su propulser une formation d'extrême droite sur le devant de la scène en Allemagne pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Une femme au profil particulier, Patrick Moreau, docteur en histoire, docteur d'État en sciences politiques et chercheur au CNRS.
Il n'y a pas une Madame Weidel, il y a plusieurs Madame Weidel. En fait, elle évolue beaucoup à travers le temps. À l'origine, c'est une conservatrice tout à fait classique. Elle est sur une ligne traditionnaliste, à part sa sexualité, si vous voulez. Elle va commencer à se radicaliser en observant ce que faisait le FPÖ en Autriche, qui est en fait le modèle de l'AfD, c'est-à-dire une politique dans laquelle le fait de monter au créneau et de sans arrêt s'attaquer au système permettait de mobiliser de plus en plus de gens qui se sentent mal dans leur peau.
Alors créée en 2013, l'AfD évolue donc avec l'arrivée à compter de 2015 d'électeurs d'extrême droite, la frange que certains appellent aujourd'hui les racialistes, très présente dans l'ex-Allemagne de l'Est, une évolution dont va s'accommoder Alice Weidel qui assume son racisme.
Et pourtant, Romain, elle se défend de promouvoir un racisme entre guillemets primaire.
Oui, c'est ce qu'explique Paul Maurice, un secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Elle considère que l'islam, l'immigration, les immigrés venus d'Afrique notamment, mais aussi du Moyen-Orient, vont l'empêcher d'assumer son mode de vie occidental, son homosexualité, son féminisme d'une certaine manière, puisqu'il s'agirait de populations qui voudraient abaisser les femmes, les enfermer, et qui seraient très rétrogrades sur les questions sociétales.
Alors si tous les partisans de l'AfD ne partagent pas cette rhétorique, comme le détaille Paul Maurice, Alice Weidel colle parfaitement au sentiment collectif de cette formation.
Elle n'incarne pas la majeure partie des électeurs qui votent pour l'AfD, qui se trouvent majoritairement à l'Est, qui sont des gens issus des catégories populaires ou des classes moyennes, qui vont voir leur niveau de vie baisser avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Elle est très libérale, elle a travaillé pour des grandes entreprises multinationales, elle vit en Suisse pour ne pas payer d'impôts, et donc elle arrive malgré tout à incarner.
Et Romain, l'AfD est aujourd'hui en position de force.
Et oui, c'est la deuxième formation la plus plébiscitée par les électeurs derrière le parti chrétien-démocrate, la CDU. Il faut dire que l'AfD a en plus bénéficié d'un coup de pouce inespéré, celui d'une personnalité qui fascine Alice Weidel, un certain Elon Musk.
Il a une responsabilité sur 2 points. Premièrement, en mettant à disposition le réseau social, et on voit aujourd'hui que l'AfD est le premier parti chez les jeunes. Les jeunes électeurs vont être très sensibles aux réseaux sociaux, et d'autre part, ils légitiment un parti qui jusque-là était le paria de la vie politique allemande.
Alors face à la montée qui semble inexorable de l'AfD, le parti chrétien-démocrate reprend de plus en plus d'éléments de langage de la formation d'extrême droite, preuve que ce parti est en train de devenir un élément central de la politique allemande, une première depuis la Seconde Guerre mondiale.
Merci beaucoup Romain Lemarasquier. Madrid, nouvelle capitale des Latino-Américains. Ils étaient 80 000 il y a 20 ans. Ils sont aujourd'hui plus d'un million. Ils fuient les crises économiques et politiques dans leur pays. Le Venezuela, le Nicaragua, mais aussi le Pérou et la Colombie. Portrait d'une communauté qui bouleverse aussi l'identité de la capitale espagnole. C'est le reportage à Madrid de Diane Cambon.
Dans son salon d'esthétique situé dans le quartier huppé de la capitale espagnole, Annabelle a parfois l'impression d'être dans sa Caracas natale. Cette Vénézuélienne de 42 ans s'est entourée d'employés qui, pour la plupart, viennent de son pays.
Avant, j'avais beaucoup d'élèves espagnols, mais maintenant, ce sont toutes des latinas. C'est incroyable le nombre de filles d'Amérique latine qui y débarquent. Elles viennent de Colombie, du Venezuela, du Brésil, de toute l'Amérique du Sud. Elles cherchent une opportunité de travail et un salaire pour survivre et avoir rapidement leurs papiers. Suivre un cours d'esthétique, c'est une façon facile d'aller de l'avant, d'être indépendante financièrement et d'avoir une stabilité, car la majorité d'entre elles sont des femmes seules ou des mères de famille solo.
Annabelle est arrivée à Madrid en 2018. Elle fait partie de ces migrantes latino-américaines qui affichent la réussite professionnelle en Espagne. Sa success story, elle la partage avec les jeunes filles latino-américaines qui débarquent tout juste à Madrid et à qui elle vient en aide en proposant des formations de manucure à moitié prix.
Moi aussi, je suis partie à cause de la triste situation au Venezuela. Quand la crise économique et politique est devenue plus dure là-bas, on a dû tout fermer et on est venu. Et grâce à la manucure, j'ai pu aller de l'avant et nourrir ma famille. On prend n'importe quel travail quand on arrive. Au bout de 4 ans, j'ai monté mon propre salon d'esthétique et ensuite il est devenu trop petit. Et donc j'ai ouvert celui-ci où travaillent plusieurs filles à qui j'offre une formation.
Grand sourire aux lèvres, elle martèle un discours positif à ses nouvelles élèves.
L'Espagne, je le dis à tous et aux Vénézuéliens en particulier, c'est un pays qui te donne la possibilité d'avancer et de grandir. Je ne cesse de le répéter. Profite de tout ce que l'on te donne ici pour devenir ce que tu veux être. Oui, d'accord, c'est coûteux d'être indépendant, mais ici, on peut monter sa boîte, car la qualité de vie est tellement meilleure que chez nous.
Sofia, âgée tout juste de 24 ans, a débarqué en Espagne il y a à peine 4 mois. Assise à une table, cette Vénézuélienne apprend à poser de faux longs ongles recouverts de paillettes.
Dans mon pays, je ne pouvais trouver aucun travail. La délinquance est horrible là-bas. Il y a des endroits où seulement pour un regard, on te dépouille. Si tu as une petite boutique, tu dois constamment la surveiller pour ne pas être volé. Sans parler de l'inflation, des taxes ou des loyers très élevés.
La qualité de vie et la sécurité sont les principaux motifs qui poussent aussi ces dernières années des milliers de Latino-Américains de la classe moyenne ou aisée à traverser l'Atlantique. Sarah, mexicaine et mère de 2 enfants, est venue avec son époux s'installer en Espagne juste après la pandémie.
Les États-Unis n'ont jamais été une option. Ici, nous avons des racines en commun avec l'Espagne. Et en plus, mon époux peut faire valoir que ses grands-parents étaient asturiens, ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité espagnole. On a du coup une certaine connexion avec le pays.
Comme de nombreux latino-américains, Sarah espère obtenir la nationalité espagnole. Au terme de 2 ans de résidence légale en Espagne, la loi permet de solliciter la nationalité à certaines communautés d'Amérique latine. Un autre argument pour lequel les citoyens ibéro-américains préfèrent désormais Madrid à Miami. Dans les quartiers du centre-ville où fleurissent les restaurants gastronomiques mexicains et les bars à tequila, Sarah se sent chez elle.
Ce qui me frappe le plus, c'est que quand je me balade dans Madrid, plus que d'entendre tous ces accents latinos différents, vénézuéliens ou colombiens, c'est de rencontrer des gens que je connais du Mexique. Nous sommes dans un autre continent et c'est dingue, je croise dans la rue des gens que je n'avais pas vus depuis des lustres dans les rues ici.
Comme la majorité de ses compatriotes, Sarah n'envisage aucun retour dans son pays natal.
D'ici, on bénéficie d'une qualité de vie très élevée. On peut sortir dans la rue, se promener sans avoir de problème de sécurité comme au Mexique. Et puis, il y a tous ces services publics. Ici, c'est merveilleux. On fait tout en métro et on se déplace, même à vélo, car c'est très facile. Quant à l'école, chez nous, à Mexico, tous les gens que je connais envoient leurs enfants dans des écoles privées. Ici, on va dans le public. Les professeurs sont très bien formés et très bons. Le public
est un très bon niveau d'études.
L'arrivée des latino-américains les plus fortunés a déjà des répercussions dans le marché de l'immobilier. Un tiers des logements de luxe de Madrid est acheté par des citoyens sud-américains et les prix ont augmenté en moyenne de 17,5% l'an dernier.
Dans une Bulgarie secouée par les crises politiques à répétition, c'est un petit parti faiseur de rois. Le mouvement Droit et Liberté est le parti de la minorité turque, une minorité qui affirme aujourd'hui son importance alors qu'on commémore les 35 ans de sa déportation. On retrouve à Sofia notre correspondant Damien Vodenicharov. Bonjour Damien.
Bonjour.
Damien, la communauté turque a été longtemps perçue comme une menace en Bulgarie.
Le régime communiste cherche à assimiler la minorité turque dès 1984, lorsqu'il force les musulmans du pays à changer de nom et à adopter des noms bulgares. La minorité turque est alors perçue comme une cinquième colonne ou un nid d'espion au service du nationalisme turc. À l'époque, de très fortes tensions politiques existent entre la Bulgarie, qui fait partie du pacte de Varsovie, rappelons-le, et la Turquie, qui fait partie de l'OTAN depuis 1952. Pour le secrétaire général du parti, Todor Živkov, cette assimilation ne va pas assez loin. Il appelle à l'expulsion de 200 à 300 000 personnes. Sinon, je cite, « la Bulgarie n'existera plus dans 15 ans. Elle subira le même sort que Chypre ». Fin de citation. Et la police force alors 360 000 personnes à quitter leur domicile sous prétexte d'une visite en Turquie. C'est ce que l'histoire bulgare a depuis qualifié d'un curieux nom, la Grande Excursion.
Et le paysage politique change en 1989 lorsque le dirigeant communiste Živkov est destitué. Que devient alors la minorité turque ?
À la chute du régime de Živkov en novembre 1989, environ 150 000 personnes retournent en Bulgarie. Une grande partie d'entre eux décide de rester en Turquie car le Parti communiste bulgare est toujours au pouvoir. Et c'est dans ce contexte de tensions interethniques qu'est né le mouvement des droits et libertés, un parti censé défendre les intérêts de la communauté turque. La constitution post-communiste adoptée en 1991 interdit pourtant les partis ethniques. Mais la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du maintien de ce parti qui, au fil des années, et des gouvernements sera un faiseur de rois très influent, presque aussi influent que son fondateur, Ahmet Dogan, ancien collaborateur de la police secrète communiste. Il devient une figure incontournable dans les milieux politiques et il a su naviguer entre les différents courants politiques. Il a été allié au roi, devenu premier ministre, Simeon Saxe-Coburg-Gotha, puis de la gauche et enfin de la droite réformiste.
Et aujourd'hui, ce parti omniprésent depuis la chute du communisme connaît des difficultés.
Oui, le parti a éclaté en deux suite à une lutte intestine de pouvoir entre Dogan et son protégé, l'oligarque et mania des médias Delian Peevski, qui n'est pas issu de la communauté turque d'ailleurs. C'est pourtant quelqu'un de très influent aussi, qui semble avoir la main mise sur l'ensemble du système judiciaire bulgare. Il est sanctionné pour corruption par les États-Unis et le Royaume-Uni, mais il est élu député et se réinvente en homme politique pro-occidental. Et si ces deux personnages se livrent à une guerre de tranchées pour le leadership du parti, c'est que le mouvement des droits et libertés a un électorat sûr. Il rassemble quasiment la totalité des voix des musulmans qui réunissent la minorité turque, mais aussi les pomaks, ce sont des slaves musulmans, et les roms turcophones. La communauté expatriée en Turquie depuis la Grande Excursion a également le droit de vote en Bulgarie, ce qui constitue un autre grand réservoir de voix lors des législatives qui se succèdent depuis 4 ans en Bulgarie.
Merci Damien Vodenicharov, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. À demain.